Welcome to the Voice of America in French.
Bienvenue. La Voix de l'Amérique, service francophone vers l'Afrique.
Tous les matins, du lundi au vendredi à 5h30 PU et tous les soirs à 18h30 PU.
Et sur Internet à www.lavoixdelamérique.com.
Bonsoir, Jacques Aristide à Washington, ravi de vous retrouver pour ce premier tour d'horizon de l'actualité en ce samedi 14 juin 2014. Ouvrons par la Coupe du Monde de football au Brésil. Il y a un peu plus de 30 minutes, la Colombie a battu la Grèce par 3-0 à l'occasion du premier match du groupe C. Les autres matchs à venir ce samedi, Uruguay, Costa Rica, Angleterre, Italie et évidemment Côte d'Ivoire, Japon à suivre absolument. Le secrétaire général de l'ONU plaide pour une présence accrue de la MINUSMA dans le nord du Mali. Ban Ki-moon a remis hier un rapport au Conseil de sécurité. Le diplomate se dit profondément préoccupé qu'en l'absence de processus politique, les groupes terroristes s'en prennent aux forces maliennes et internationales et menacent les civils dans le nord. La mission des Nations Unies au Mali ne compte encore que les trois quarts des effectifs prévus, qui doivent atteindre 11 200 soldats et 1 400 policiers. D'après le patron de l'ONU, elle n'a pas les moyens nécessaires pour être présente au-delà des zones peuplées. Mercredi dernier, un attentat suicide a coûté la vie à 4 casques bleus tchadiens à Guéloc, dans le Nord. Ban Ki-moon a également réitéré son appel à la mise en œuvre immédiate de l'accord de cessez-le-feu paraphé le 23 mai dernier entre Bamako et les trois groupes rebelles Touareg qui contrôlent encore la ville clé de Kidal. M. Ban a exhorté toutes les parties aux négociations politiques pour mettre un terme à l'insécurité dans le nord malien. La tête de quatre terroristes opérant en Afrique de l'Ouest et du Nord ont été mises à prix par l'administration Obama pour 18 millions de dollars. Il s'agit du programme Rewards for Justice, récompense pour la justice du département d'État. Washington offre une récompense allant jusqu'à 5 millions de dollars pour toute information conduisant à l'arrestation du Nigérian Khalid al-Barnawi, chef présumé d'Ansarou, branche du groupe islamiste Boko Haram. Même montant pour le Mauritanien Hamad El Kairi et le Malien Hamed El Tilemzi qui ont fondé le Moudjahou, groupe djihadiste armé opérant au Mali et au Niger. Enfin, jusqu'à 3 millions de dollars pour retrouver Abu Yusuf Al Muhajir, un expert en explosifs, ancien membre d'un groupe extrémiste égyptien. Les partis politiques tunisiens se sont entendus hier sur l'organisation d'ici la fin de l'année d'élections législatives suivies d'un scrutin présidentiel. Un long bras de fer avait jusque-là opposé Ennahda à Nida Tounes, le parti islamiste privilégié au départ la tenue d'élections concomitantes, avant d'accepter le principe d'élections séparées à condition que les législatives soient organisées avant la présidentielle. Cette dernière position avait été soutenue par plusieurs partis politiques généralement opposés à Ennahda, particulièrement Al-Massar. Quant à la date de ces élections, elle sera fixée d'ici la fin de la semaine prochaine, selon le président de l'Assemblée nationale constituante, Mustapha Ben Jaafar. L'Assemblée nationale tunisienne a adopté le mois dernier une nouvelle loi électorale destinée à parachever la transition démocratique entamée avec le soulèvement de janvier 2011 contre le régime de Ben Ali. Cap sur l'île tanzanienne de Zanzibar, la police était toujours à la recherche ce samedi des auteurs d'une attaque à la bombe perpétrée hier près d'une mosquée dans laquelle une personne a été tuée et au moins 7 autres ont été blessés. L'attentat a eu lieu dans le quartier de Stone Town, le centre historique de Zanzibar, inscrit au patrimoine de l'UNESCO. La police locale affirme être en alerte maximale. 10 corps ont été récupérés après le naufrage d'un bateau de migrants hier au large des côtes libyennes. La marine militaire italienne a affirmé aujourd'hui avoir sauvé au moins 40 personnes qui se trouvaient dans le même bateau pneumatique. Les recherches se poursuivaient pour tenter de récupérer d'éventuels survivants. Il s'agit de la plus récente tragédie parmi les milliers de migrants africains et syriens qui tentent de rejoindre l'Europe.
Washington, la voix de l'Amérique, tous les soirs à partir de 18h30 temps universel et les matins du lundi au vendredi à partir de 5h30 TU.
Washington, la voix de l'Amérique, Amigro Didier pour cette édition de Carrefour Science et Santé, un programme que je vous invite à suivre également sur le réseau Afrique Santé de la VOA. Quelques titres tout d'abord, Journée mondiale de la sensibilisation à la maltraitance des personnes âgées. Une ONG plaide pour l'adoption d'une convention sur les droits des vieillards.
On ne s'imagine pas la variété de cas de maltraitance et de l'origine.
On entendra Catherine Dussault de l'ONG HelpAge International. Une équipe de chercheurs britanniques fabrique des moustiques mâles pour éradiquer à terme les femelles qui transmettent le paludisme.
La population de moustiques a entièrement disparu en 6 générations seulement, faute de femelles pour perpétuer la lignée. Et ce, sans qu'on ait versé d'une seule goutte d'insecticide.
Jacques Aristide aura tous les détails et les sacs en plastique sont un fléau à Dakar, comme ailleurs dans le monde. À l'occasion de la Journée mondiale de sensibilisation à la maltraitance des personnes âgées, le 15 juin, l'ONG HelpAge International va lancer un appel en faveur de l'adoption par les Nations Unies d'une convention sur les droits des personnes âgées. Compte tenu du vieillissement rapide de la population mondiale, aux États-Unis comme en Europe ou en Chine notamment, le nombre des plus de 60 ans devrait atteindre environ 1,2 milliard d'ici à 2025 selon l'ONU. Or, entre 4 à 6 % des personnes âgées ont connu ou connaissent déjà des problèmes de maltraitance. Pour plus de précision, on écoute Catherine Dussault de l'ONG HelpAge International.
On ne s'imagine pas la variété de cas de maltraitance et de l'origine. On peut parler d'une transcendance du problème des maltraitances dans toutes les classes sociales, dans toutes les cultures, que l'on soit vivre dans un pays développé ou en voie de développement. La maltraitance, elle est partout, les abus sont partout. Alors ça va de la maltraitance physique à la maltraitance psychologique, aux abus de pouvoir et de vol de terre, de propriété. Enfin, c'est vraiment un éventail de situations qui mettent en évidence que le problème de la maltraitance et des abus contre les personnes âgées est un phénomène très répandu. On a en plus un champ nouveau de maltraitance qui est des personnes âgées en situation de dépendance pour raison de démence, d'Alzheimer ou pour raison de dépendance physique, où on voit la situation des personnes en charge des soins, en particulier pour des raisons de stress et de charge trop grande de travail, une réaction qui se transforme en maltraitance. Donc la violence et les abus sont des phénomènes qui se multiplient de plus en plus.
Alors il existe des conventions internationales pour protéger les droits des enfants. Qu'en est-il des personnes âgées ?
Il n'existe pas à l'heure actuelle de convention du droit des personnes âgées. Et c'est justement la lutte à laquelle participent activement HelpAge et tous nos partenaires, c'est le développement d'une convention internationale sur les droits des personnes âgées. Beaucoup argumentent que les conventions des droits de l'homme devraient couvrir et les législations nationales devraient couvrir le champ des maltraitances, mais il est important de spécifier, de mettre l'accent sur le cas des personnes âgées, qui ne sont pas toujours les mêmes cas des autres groupes d'âge. Et pour la fréquence des cas de personnes âgées en situation de détresse à cause de maltraitance, il est important de pouvoir avoir une convention spéciale. On l'a pour les enfants, il y en a une pour les handicapés, il y en a une pour les personnes d'origine indigène. Et il n'y en a pas pour les personnes âgées.
Mais cela devient absolument critique parce que entre 1995 et 2025, selon l'Organisation mondiale de la santé, le nombre des plus de 60 ans dans le monde devrait au moins doubler et atteindre jusqu'à 1,2 milliard d'êtres humains.
Le phénomène du vieillissement des populations est un phénomène inéluctable irréversible. Donc les chiffres que vous citez sont tout à fait corrects. Donc c'est pour ça aussi que la convention est nécessaire et tous les programmes et les législations nationales aussi. C'est pour ça aussi malheureusement qu'on voit de plus en plus de situations de violence parce qu'il y a plus de personnes âgées évidemment. On a plus de cas possibles de personnes en situation de détresse. Donc il est très important de reconnaître que nous vivons aujourd'hui dans un civilisation où les personnes âgées représentent une proportion de plus en plus grande et donc il est normal de reconnaître les droits de ces personnes.
Catherine Dussault de l'ONG HelpAge International. Camille Grosdidier avec vous pour cette édition de Carrefour Sciences et Santé de La Voix de l'Amérique. En dépit des millions de dollars et des décennies consacrées par les chercheurs à trouver soit un remède, soit un vaccin contre le paludisme, la maladie tue toujours chaque année des centaines de milliers de personnes à travers le monde. D'après l'Organisation mondiale de la santé, il s'agit en majorité d'enfants nés en Afrique subsaharienne. D'où l'intérêt suscité par la nouvelle approche adoptée par une équipe qui a choisi littéralement de faire du mal pour faire le bien. Je laisse Jacques Aristide expliquer.
Oui, ce qu'il faut d'emblée expliquer, Camille, c'est que l'on parle ici de moustiques et non pas de méchants. Des moustiques mâles, M-A, accent circonflexe, L-E-S, pour être clair. Voilà, dans un communiqué, une équipe de chercheurs de l'Imperial College de Londres, en Grande-Bretagne, a annoncé qu'après 6 ans d'efforts, des premiers tests menés en laboratoire avaient permis de créer une nouvelle souche de moustiques OGM, totalement fertile mais produisant à 95% des larves mâles. Les scientifiques ont procédé à des essais, plaçant dans des cages 50 anopheles mâles OGM et 50 femelles sauvages. Résultat, dans 4 cages sur 5, la population de moustiques a entièrement disparu en 6 générations seulement, faute de femelles pour perpétuer la lignée. Et ce, sans qu'on ait versé d'une seule goutte d'insecticide. Or, ce sont les moustiques femelles qui seules peuvent propager le paludisme. Et il existe de multiples raisons de les éradiquer, fait valoir à Pete Otez de l'École nationale de médecine tropicale à l'université Baylor College of Medicine. Les moustiques sont qualifiés d'animaux les plus virulents au monde. Les infections qu'ils transmettent tuent plus de gens qu'aucune autre maladie, affirme le docteur Otez, d'autant qu'il développe relativement rapidement des résistances aux insecticides. Ce qui explique l'enthousiasme dont font preuve les chercheurs de l'Imperial College de Londres, dont Nikolai Winbichler. On a trouvé un moyen, on a identifié, pour ainsi dire, le talon d'Achille des moustiques. Il s'agirait des 400 copies d'un gène particulier sur le chromosome X, soit le chromosome qui fait qu'un moustique naît femelle. En introduisant dans le génome du moustique une enzyme glutone qui découpe l'ADN du chromosome X durant la production des spermatozoïdes, on aboutit à la production presque exclusive de moustiques mâles. Et comme ces derniers produisent surtout d'autres mâles, éventuellement la population cesse de se reproduire. Voilà. Adieu les moustiques! Ces travaux ont été publiés dans Nature Communications.
Vous êtes à l'écoute de Carrefour Sciences et Santé en compagnie de Camille Grosdidier. Les sacs en plastique sont devenus un fléau pour l'environnement, mais également pour la santé humaine, au point qu'ils ont été interdits dans certains pays. Au Sénégal, ils ont envahi Dakar, la capitale, signale notre correspondante Diéna Baba. On suit ici son reportage.
Ils sont unanimes. Les déchets plastiques ont envahi Dakar, ce que dénoncent nos interlocuteurs.
C'est très risqué pour notre environnement.
C'est un phénomène qui pose problème à Dakar.
Ça me désole parce que au niveau décor, c'est très désolant. Ils gardent le décor au niveau de la ville de Dakar.
Les sachets plastiques font partie du quotidien des Sénégalais. Et pourtant, ces sachets sont nocifs à l'environnement, nous dit Idrissa Sané et son ami Massamba Samb, rencontrés en centre-ville.
C'est pas des déchets qui peuvent être transformés, qui peuvent donc pourrir et disparaître. Donc ils sont encore là, donc c'est un problème d'environnement. Je pense qu'il faut...
Vous en voyez beaucoup à travers les rues de Dakar?
Bien sûr. Vous allez à la boutique, vous achetez n'importe quoi, on vous met dans un chassé. Après utilisation, vous jetez un peu partout. C'est vraiment un désastre à Dakar.
Tu achètes un petit sandwich, tu achètes un petit produit, on te donne toujours des produits comme les sacs plastiques noirs. Et puis voilà quoi, pour moi c'est un fléau.
La présence de ces sachets dérange alors qu'il faut trouver des solutions. Madame Barry Fama pense que le recyclage du plastique peut être une solution.
Bien, on met en place des projets de recyclage, donc des produits plastiques.
Pour Massamba, c'est à l'État de prendre ses responsabilités pour réguler l'utilisation des sachets plastiques.
Je pense que c'est une mauvaise volonté de l'État. Parce que si l'environnement, le ministère de l'Environnement, il y a un ministère qui prend ça en charge. S'il montre une volonté politique pour imposer l'utilisation des sachets, comment dirais-je, en papier, sera utilisé. Effectivement, moi, par exemple, quand je vais dans les stations, s'ils veulent me donner des sachets en plastique, je préfère prendre mes produits, n'est-ce pas? Parce que les personnes ne sont pas sensibilisées par rapport à l'environnement. Donc les Sénégalais ne sont pas, ils n'ont pas encore ce geste-là avec l'environnement. Parce que tout le monde se dit, ok, si c'est une personne, ça ne veut rien dire. Alors que c'est la somme de ces utilisations-là qui fait que la ville est infestée de produits en plastique.
Au Sénégal, selon des experts de l'environnement, au moins 5 millions de sachets en plastique sont utilisés par jour à travers des usages commerciaux et domestiques. Cela fait à peu près 128 milliards de sachets en plastique utilisés par an dans notre pays. Diana Basseidouba, Dakar, pour La Voix de l'Amérique.
Camille Grosdidier pour Carrefour Sciences et Santé, ici Washington, La Voix de l'Amérique. Au chapitre de la protection de l'environnement, la nouvelle cette semaine que la multinationale britannique Soco International va cesser toute opération pétrolière dans le parc des Virunga en République démocratique du Congo. L'accord a été annoncé par le Fonds mondial pour la nature dans un communiqué publié mercredi. En octobre 2013, le WWF avait déposé une plainte contre Soco concernant des violations présumées des droits humains et des protections environnementales liées aux activités de l'entreprise dans le parc des Virunga. Une médiation s'en étant suivie, Pierrette Rey du WWF revient sur l'accord annoncé mercredi.
Ça fait déjà depuis plusieurs mois que nous essayons d'obtenir une telle décision. Et aujourd'hui, nous sommes vraiment tous très heureux que Soco ait pris cette décision.
La région est un site africain classé au patrimoine mondial.
Oui, en effet, le parc des Virunga, c'est d'abord le plus ancien parc national d'Afrique. Et puis, c'est également un patrimoine mondial de l'UNESCO. Et Soco a également pris l'engagement de ne jamais pratiquer d'activité pétrolière dans un site qui est classé au patrimoine mondial. Donc ça aussi, c'est une très bonne nouvelle.
La décision de forer dans le parc national des Virunga mettait en danger les gorilles de montagne qui se font de plus en plus rares.
Alors pour nous, ce qui était important, c'était vraiment que toute la zone reste bien protégée, parce que voilà, il y avait différents projets d'extraction, différents tests qui devaient être menés dans cette région-là, et nous étions effectivement inquiets des conséquences, notamment sur l'environnement, sur les gorilles bien sûr, mais aussi après sur toutes les espèces, par exemple du lac Édouard, parce qu'il faut savoir qu'environ 50 000 familles dépendent directement de ce lac, et nous étions vraiment inquiets d'une pollution éventuelle.
Le parc des Virunga abrite également l'espèce okapi.
Oui, alors ce parc est vraiment une réserve de biodiversité très importante. On y trouve effectivement, je dirais un peu l'emblème du parc, ce sont les gorilles, mais après il y a aussi effectivement des okapis, des hippopotames, il y a toute une faune très riche. Et c'est vraiment important qu'on préserve de telles zones de façon justement à ce que ces espèces-là puissent se développer et vivre dans des bonnes conditions.
Ce projet de forage de la Soco internationale avait été accompagné d'une montée de la violence dans le parc et aux alentours, dans toute la région. On songe notamment à l'attaque dont a fait l'objet le directeur des parcs des Virunga, Monsieur de Mérode.
Ce qu'il faut savoir, c'est que toute la région est déjà depuis pas mal d'années, malheureusement, en proie à des instabilités au niveau politique. Et bien sûr, on peut imaginer qu'après de tels projets qui ont sans doute suscité évidemment chez certains l'espoir de gagner de l'argent, il ne faut pas oublier que c'est une région qui est très très pauvre. Et nous estimons aussi que justement il est important d'essayer de restaurer une certaine stabilité dans cette contrée de façon à ce que pas seulement les gens du parc mais aussi toute la population locale puissent vivre dans des conditions qui sont un peu meilleures que celles qu'elles connaissent ces dernières années. Nous espérons simplement que maintenant, aussi bien Soco que d'autres entreprises pétrolières soient peut-être un peu mieux sensibilisées à l'importance de la préservation de la nature.
Madame Pierrette Rey du Fonds mondial pour la nature, elle était jointe en Suisse. Le parc des Virunga s'étend au Nord Kivu sur près de 800 000 hectares, à la frontière avec l'Ouganda et le Rwanda. En près de 20 ans, plus de 140 gardes du parc ont été tués dans l'exercice de leurs fonctions. Le 15 avril 2014, Emmanuel de Mérode, directeur du parc, a été grièvement blessé par balle lors d'une attaque menée par des hommes armés non identifiés au Nord Kivu. Washington, Camille Grosdidier, je vous accompagne pour cette édition de Carrefour Science et Santé, un programme diffusé par La Voix de l'Amérique. Les États-Unis ont autorisé mardi les premiers vols civils de drones au-dessus de leur territoire. Parmi les premiers à les utiliser, le groupe pétrolier BP pour assurer la surveillance de ses installations du nord de l'Alaska. Le point avec Michel Joseph.
L'Autorité fédérale de l'aviation civile, FAA, a entériné la demande de BP et du constructeur AeroVironment d'utiliser un drone Puma pour inspecter les oléoducs, les routes et les équipements à Prudhoe Bay, le plus grand gisement pétrolier américain, signale Reuters. La FAA étudie également le recours à cette technologie pour des projets de photographie aérienne et de cinématographie soumis par 7 sociétés. L'agence doit théoriquement fixer d'ici à septembre 2015 les règles encadrant l'accès des drones au ciel américain, mais il se pourrait qu'elle ait besoin d'un délai supplémentaire. L'utilisation des drones à des fins commerciales permettrait toute une nouvelle gamme d'activités. Ce n'est pas seulement qu'ils peuvent prendre des clichés et vidéos inédits. Le géant des ventes en ligne, Amazon, rêve de livrer ses paquets par drone. Et puis, l'Université de Californie à Davis fait des essais d'épandage d'insecticides grâce aux drones. Ce serait nettement plus précis et meilleur marché que d'utiliser des petits avions, font valoir les chercheurs. Michael Toscano, président de l'Association for Unmanned Vehicle Systems International, espère que la FAA interviendra au plus vite pour permettre au secteur de prendre son essor. Rien que dans les trois premières années, le bénéfice économique dépasserait les 13,6 milliards de dollars avec la création d'environ 70 000 emplois, explique M. Toscano. Raphaël Perk, chef de la société de systèmes sans pilote, Team Black Sheep, affirme que l'industrie des drones n'en est plus à ses premiers balbutiements, loin de là. Maintenant, on en arrive au point où les entreprises s'impliquent et où on calcule les coûts. Ils calculent le coût, par exemple, d'une équipe de tournage dans un vrai hélicoptère contre une équipe de tournage avec un drone. Quels sont les avantages et la qualité de l'image, affirme Raphaël Perk. Les sociétés vont maintenant imaginer des moyens d'utiliser les petits drones pas chers. Cela devrait révolutionner le monde des affaires, estime le professeur Keith Hayward de la Royal Aeronautical Society à Londres. Ça fait une différence. Une différence significative, mais pas une révolution dans la façon dont on organise la société. Simplement une différence, déclare M. Hayward.
À noter que les mini-drones font parler d'eux à la Coupe du monde de football qui a débuté cette semaine au Brésil, car un drone est venu survoler la première séance d'entraînement de l'équipe de France depuis son arrivée au Brésil. Les Bleus n'ont pas apprécié, paraît-il. Ici Washington, vous êtes à l'écoute de Carrefour Science et Santé. Durban, en Afrique du Sud, a accueilli la 4e conférence sur la tuberculose. À cette occasion, les acteurs de la lutte contre la tuberculose, dont l'ONG Treatment Action Campaign, ont appelé le gouvernement sud-africain à déclarer l'épidémie de tuberculose du pays une urgence publique. Cher Rubin Dorsil.
Le fardeau mondial de la tuberculose reste énorme et des défis importants doivent encore être relevés, constate l'Organisation mondiale de la santé. On estime qu'en 2012, il y a eu 8 600 000 nouveaux cas et qu'1 300 000 personnes sont mortes de la tuberculose. Plus de 95% des décès dus à la tuberculose surviennent dans les pays à revenus faibles ou intermédiaires, les communautés pauvres et les groupes vulnérables restant les plus touchés, ajoute l'OMS. Avec le Kenya, l'Afrique du Sud enregistre le taux de tuberculose le plus élevé au monde, notamment à cause de la prévalence du VIH-Sida au sein de la population, d'où l'appel de l'ONG Treatment Action Campaign en faveur d'un engagement accru du gouvernement. Nous voulons voir autour de la tuberculose la même mobilisation sociale généralisée qu'autour du VIH. Maintenant, à certains égards, c'est un peu plus compliqué, car avec le VIH, si vous fournissez un traitement aux malades et qu'ils le prennent, leur état s'améliore. Avec la tuberculose, il y a de nombreux autres facteurs sociaux qui la rendent beaucoup plus difficile à traiter, explique Marcus Lowe, au responsable du Treatment Action Campaign. Parmi ces facteurs, le taux élevé de tuberculose au sein de la population carcérale. Les prisons étant surpeuplées, les conditions restent très favorables à la poursuite de l'épidémie. Aucune surprise donc à ce que les premiers cas de tuberculose pharmaco-résistante aient été identifiés dans la localité de Tugela Ferry, au KwaZulu-Natal, une province lourdement frappée par la pandémie du VIH-Sida. Il faut dire que la tuberculose nécessite un traitement très long qui n'est pas toujours couronné de succès.
At the moment, it takes about 2 years to treat someone. There are severe side effects.
À l'heure actuelle, il faut environ 2 ans pour soigner quelqu'un. Il y a des effets secondaires graves. Les malades doivent prendre environ 14 000 pilules et recevoir les injections hebdomadaires pendant 6 mois, rappelle M. Lowe. Il faudrait renforcer les efforts de détection, accélérer la mise au point de nouveaux vaccins et nouveaux traitements, poursuit l'expert. Le plan stratégique du gouvernement sud-africain pour le VIH, les maladies sexuellement transmissibles et la tuberculose accorde la plus haute priorité à ces maladies. Mais au niveau local, la réalité est différente, explique M. Lowe, du fait que le pays est divisé en 9 provinces qui bénéficient d'une large autonomie.
Et pour finir, cette édition de Carrefour Science et Santé, un programme de la Voix de l'Amérique, une mission de travail de l'Organisation mondiale de la santé, séjournée cette semaine en Guinée. C'était pour rencontrer la cellule interministérielle de lutte contre la fièvre hémorragique à virus Ebola. À cette occasion, la directrice du département lutte contre les pandémies et épidémies à l'OMS, le Dr Sylvie Bryant, s'est inquiétée de la résurgence très préoccupante, selon elle, de l'Ebola en Afrique de l'Ouest. Déjà, des cas de fièvre hémorragique sont notifiés au Libéria et en Sierra Leone, a-t-elle dit. Effectivement, le gouvernement sierra-léonais a dû proclamer cette semaine l'état d'urgence dans le district de Kailaoun, où une épidémie du virus d'Ebola a fait une 20aine de morts. Cette fièvre est hautement contagieuse, elle nécessite des précautions draconiennes, explique l'OMS depuis le début de l'épidémie. Nous reprenons ici en rediffusion des propos d'une porte-parole de l'OMS, Fadela Chahi.
Les professionnels de santé sont les premières personnes qui peuvent attraper Ebola parce qu'ils font leur travail professionnel de santé en s'occupant des malades. Et s'ils ne prennent pas les mesures adéquates, à savoir porter des gants, mettre des uniformes, mettre des lunettes de protection et des gants également, ils peuvent s'infecter et infecter d'autres personnes et infecter les membres de leur famille. Il y a beaucoup d'autres activités, par exemple, c'est très important de faire la mobilisation sociale en travaillant avec les communautés, les familles.
Fadela Chaïb de l'OMS, dont les conseils vous étaient offerts en rediffusion, on ne dispose ni d'un traitement ni d'un vaccin contre la fièvre hémorragique à virus Ebola. Voilà, ainsi s'achève cette édition de Carrefour Science et Santé de La Voix de l'Amérique. Au micro, Camille Grosdidier qui vous remercie de l'avoir suivi.